Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui.
Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti.
Finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne.
Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment le cinéma peut-il nous parler de mythologie et des mythes, s'interroge le réalisateur d'origine israélienne Amos Gitai. Tous les royaumes ont des comptes à rendre, rappelle l'archéologue et historien Alain Schnapp. Alors comment la première fiction filmée d'Amos Gitai, Esther, qui est tirée d'un récit biblique, installe-t-elle ses scènes dans des ruines très diverses? Qu'est-ce qui se joue entre le pouvoir sans bornes du roi perse qui persécute les juifs dans l'Antiquité et la séduction qu'exerce la belle juive Esther? Comment la fable du passé le plus éloigné renvoie-t-elle à des situations concrètes et contemporaines, demande encore Alain Schnapp. Suite à sa leçon inaugurale diffusée hier, je vous propose de retrouver Amos Gitai. Après avoir réalisé plusieurs documentaires, dont House, censuré par la télévision israélienne, le cinéaste est parti en exil à Paris. Il a tourné Esther, son premier long métrage de fiction, en 1985, et s'est partagé dès lors, entre les documentaires, des mises en scène, l'écriture et la réalisation de fiction. La série de cours qu'il a proposée au Collège de France en 2018, sous le titre « Traverser les frontières », mêle son interrogation du cinéma à son parcours plus personnel. « J'aime apprendre », nous dit-il. Le parcours d'Amos Gitai se nourrit d'ailleurs de dialogues qu'il a introduits dans sa série de cours, en alternant les cours où il intervient seul aux cours où il intervient à deux, comme aujourd'hui. Dans la présentation de cette leçon consacrée à la question des mythologies et des mémoires collectives, Amos Gitai explique qu'il cherche dans ses films un angle indirect pour observer la réalité, une structure indirecte ou parabolique. Et l'histoire d'Esther offre cette possibilité. « J'aime détourner, dit-il, les mythologies existantes, questionner la validité de certaines vérités établies. » Dans la mémoire collective, l'histoire d'Esther est celle de la victoire d'un peuple opprimé qui se libère de ses oppresseurs. Mais on oublie souvent la fin du texte, celle de la vengeance inutile qui est racontée par le scripteur biblique. Je veux rappeler cette partie qui a été oubliée et questionner le cycle de la vengeance et la permutation permanente entre l'oppresseur et l'opprimé. Le critique américain Ray Privat rappelle qu'Esther a été produit au milieu des années 80, entre la guerre du Liban et la première intifada, le soulèvement palestinien contre Israël. Le film dépeint de façon audacieuse des rôles historiques et mêle des couches du paysage historique en l'alliant à une allégorie du temps présent. Le film a été tourné presque entièrement en hébreu et en arabe à Wadi Salib, quartier arabe d'Haïfa, complètement en ruine. Ce questionnement des ruines est au cœur des travaux de l'invité d'Amos Gitai aujourd'hui, Alain Schnapp. Disciple et ami de Pierre Vidal-Naquet, Alain Schnapp est archéologue et historien de la culture. Il a été le premier directeur général de l'Institut national d'histoire de l'art entre 2001 et 2005. Ses recherches ont porté sur l'anthropologie de l'image en Grèce ancienne, l'histoire de l'archéologie et l'étude urbaine des cités et territoires du monde grec. Il élabore aujourd'hui une anthropologie de la pratique des ruines. Alors, quelle est la dimension transhistorique du cinéma d'Amos Gitai? Comment met-il en scène les ruines? Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 4 décembre 2018 pour le cours d'Amos Gitai en compagnie d'Alain Schnapp, aujourd'hui, mythologie et mémoire collective.
Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'inviter Alain Schnapp, qui m'a appris beaucoup de choses et je vais apprendre avec vous. Il va partager son connaissance des sujets, des thématiques. Et vous connaissez, j'imagine, le travail d'Alain Schnapp, archéologue, penseur. Je suis vraiment très content qu'Alain ait accepté de partager les sciences d'aujourd'hui, qui parlent de mythologie et cinéma. Pour attaquer direct le sujet, parce qu'on a pas mal de choses à discuter et de présenter, on va parler aujourd'hui autour de deux films que j'ai fait, Et le premier, c'est Esther, que c'est mon premier long métrage, que j'ai fait en 1985. Et le deuxième, c'est des projets que j'ai fait quelques années plus tard. Je commençais en 1990, autour de trilogies de golems. J'ai fait trois films autour de l'histoire des golems. Les deux films, ils sont inspirés des textes bibliques. Vous vous souvenez des films que j'ai montrés aux sciences inaugurales sur le livre d'Amos. Alors moi, je cherchais toujours mes références culturelles dans les textes bibliques, des textes qui parlent aussi d'aujourd'hui, c'est-à-dire les tensions entre les textes archaïques, qu'on peut imaginer qu'il était écrit il y a plus que 2000 ans, peut-être 2500. C'est écrit par un homme ou une femme, et je dis toujours que le rédacteur en chef ou la rédactrice en chef de Bible nous fait le grand honneur de ne pas censurer ces textes très puissants, des textes critiques qui sont des réflexions profondes sur la nature humaine, sans même passer dans l'aspect religieux, mais plutôt spirituel que religieux. Alors, et ces deux textes, c'est les deux films qu'on monte aujourd'hui, comme beaucoup de films que j'ai dédiés à mon travail, le rôle principal, c'est le rôle de femme. Alors, je fais un petit parenthèse. Aujourd'hui, en Israël, c'est le jour contre la violence contre les femmes. Il y a une grève générale, et je crois que c'est à l'honneur d'Israël. Je suis des fois critique, mais ça, je trouve que c'est à l'honneur d'Israël qu'il y a un jour complet dans lequel toutes les grandes institutions et les trois grandes villes acceptaient que les femmes vont absenter du travail pour marquer une réserve, une critique, une rage contre les violences et contre les femmes. Et je dois dire que cette journée à Israël aujourd'hui, partagée par les mairies juifs et arabes, il y a beaucoup de mairies arabes qui acceptaient de faire une grève totale de leurs services pour marquer cette rage contre les violences contre les femmes. D'ailleurs, on a fait peut-être une erreur de ne pas dédier une conférence complète sur le travail que j'ai fait autour des rôles de femmes. Il y a Esther, il y a Golem, il y a Berlin-Jérusalem qui parle du destin des femmes. Et après, il y a toutes les trilogies des frontières qu'on ne va pas parler cette fois. Promised Land qui est dédiée contre le trafic de femmes pour la prostitution. Après, il y a Free Zone qui c'est trois femmes, Natalie Portman, Yam Abbas et Hannah Laszlo, trois femmes. Il y a Anna Arabia, il y a Wadi, le film de commentaire. Alors, ce sujet, parce que comme tout le monde, je suis né, ma mère était une femme. Alors, c'est un hommage aux femmes. Et disant tout ça, alors on va parler direct de notre sujet d'aujourd'hui, qui est la mythologie, c'est-à-dire comment le cinéma peut nous parler de mythologie, de mythes. Alors après, House, que vous avez vu, Wadi et Journal de campagne, le film très politique qui n'était pas trop apprécié par mes chers compatriotes, j'ai décidé de faire un film de fiction. Esther, qui est d'ailleurs le nom de ma grand-mère, alors en raison de plus. Et je cherchais effectivement un texte biblique. Alors il y a des textes qui vont inspirer les deux films qu'on va montrer aujourd'hui, Esther et Ruth. C'est des textes bibliques. Le rôle principal, c'est des femmes. Et c'était une décision de ne pas aller tout de suite dans l'aspect naturaliste et descriptif, de faire, après que j'ai fait House, Wadi et Journal de campagne, de faire design, une histoire d'amour plutôt kitsch, sentimentale entre des juifs et des arabes, mais aller dans les textes archaïques comme une parabole. Et ce texte magnifique d'Esther raconte le cycle des persécutions. C'est une histoire des juifs de Susa, persécutés par Haman, qui veut exterminer les juifs d'Iran de cette époque. Mais ils vont être sauvés, mais dès qu'ils sont sauvés, ils deviennent de nouveaux persécuteurs. Alors, le point d'interrogation que ce texte pose sur aujourd'hui, elle est très claire. Alors d'abord, il y a les concepts des films, il y a les textes, les concepts, les points de vue. Après, il faut chercher des aspects matériels, parce que le cinéma, il faut des matériels, il faut aussi une équipe. Et tout de suite, sur le conseil de mon assistant, c'était pas mon idée, J'avais le courage d'écrire un petit mot à le plus grand directeur de photo de la France, Henri Alkan, qui a fait aussi La Belle et la Bête de Cocteau, qu'il a travaillé avec Chaplin, avec Abel Gance, qui a fait Les ailes de désir de Wenders, etc., et de lui demander s'il sera d'accord d'être le directeur de photo de mon premier long métrage. Parce que, comme principe, c'est la même raison que j'ai invité Alain Schnapp aujourd'hui, j'aime apprendre. Alors j'ai choisi le meilleur professeur possible pour apprendre comment je peux devenir cinéaste. Henri Alkan, qui était un homme délicieux et ironique, il m'a invité chez lui, il habitait à Boulogne. Il a lu le texte d'Esther, il m'a dit « je vais faire, et j'ai une seule condition ». Alors Henri Alkan, il avait déjà 78 ans. Et alors je lui ai dit « mais qu'est-ce que votre condition ?» Il m'a dit que mon chef électro, je veux qu'il vienne avec moi en Israël. Je dis, pas de problème. Mais il a dit, mais lui, il est 82. Et j'avais ces deux piliers formidables avec toutes les connaissances de l'histoire du XXe siècle, qui étaient vraiment un modèle pour toute mon équipe israélienne. Et c'était un choix extrêmement important parce que dès que ces deux, ils ont dit quelque chose, tout le monde était super coopératif. Alors, tout est très bien passé. Alors, je racontais qu'on a commencé par voyager. On a été allé en Israël. Et je lui ai montré les sites qui, pour moi, étaient possibles pour tourner le film. Et comme je ne savais pas exactement qu'est-ce qu'Henri Alkan il va dire, j'ai commencé par les sites qui sont des représentations, disons, réalistes de cette histoire d'Esther. Et j'allais avec lui entre Jérusalem et Jéricho. Il y a un très bel caravansérail palestinien qui s'appelle Nebi Moussa. L'islam pense que c'est la tombe de Moïse. Malgré que c'est un challenge aux interprétations judéo-chrétiennes, parce que pour les judéo-chrétiens, Moïse, il est mort sans entrer à la Terre Sainte. Alors, il y a une très belle église catholique à Mont Nebo, qui est l'autre côté du Jordan, dans laquelle j'ai visité aussi, dans laquelle on peut voir tout le pays, effectivement. Mais Moïse était condamné de ne pas mettre le pied à la Terre Sainte. Mais l'islam, il a mis les tombes de Moïse, alors du côté ouest de Vallée des Jourdain, et on était allé là, et Henri Alkan, il a fait des séries de croquis que je garde toujours, avec des crayons de couleurs différentes qu'on va mettre le projecteur, etc. Et après, on était allé voir le palais d'Hicham, qui aujourd'hui il est dans l'autorité palestinienne, qui est un grand site archéologique à côté de Jéricho, qui est intact, qu'il y a des très belles mosaïques, etc. Et après, à la fin de cette grande journée d'études, qu'Elkan était adorable et très disposé de faire des analyses des projecteurs, etc., j'ai osé l'amener à ma ville natale, Haïfa. Et là, je l'ai dit un peu timide, je l'ai dit, Henri, moi je pense quand même qu'il faut tourner ce film dans les ruines des quartiers palestiniens de ma ville natale, Haïfa, un endroit qui s'appelle Wadi Salib, que c'était un peu plus tard dans l'année 50, aussi le site de grande rébellion des Juifs des pays de Maghreb dans l'année 50, et comme ils ont été discriminés, il y avait la rébellion. Alors, il y avait ce site, il y avait des ruines, qu'il avait plein de cicatrices anciens et contemporains, parce que le quartier était détruit en 1949 pour pas laisser les Palestiniens revenir dans leurs maisons. Alors, il y a cet objet au milieu de la ville, Wadi Salib, et j'ai décidé de placer le film Esther dans cette ruine palestinienne, et avec Henri Alkan, avec toute une équipe. Et on avait le problème de costume, et on n'avait pas beaucoup de moyens. Alors, à peu près comme Orson Welles, il a fait comme il a fait Othello à Tunisie, qu'il avait le problème d'argent. Il a simplement étoffé les comédiens avec des tissus et j'ai amené une costumière indien de Paris, Antu, qui a étoffé les comédiens par des tissus, comme ça il n'y a pas de stitches, on n'a pas besoin de dépenser d'argent pour coudre vraiment les costumes. Alors hommage à Orson Welles et son Othello. Et ce film, il a construit des séries de tableaux, comme d'habitude, il a une série de plans-séquences. Et souvent, les plans-séquences, sauf les derniers plans de ce film, ils sont statiques. Ils ont été très inspirés Et avec Alkan, on a regardé souvent par des miniatures persans, et surtout le rapport au cadre des miniatures persans du XVIe siècle. Alors, et après, Alain il va nous parler aussi des poussins, des références que lui trouve qui est intéressant. Excuse-moi de monopoliser la parole, Alain.
Non, pas du tout, c'est ton œuvre que nous discutons ici. Je voudrais juste dire, puisque tu as proposé qu'on se penche sur ces deux films, en quoi ils sont complémentaires. D'un côté, le cinéaste que tu es se place dans une vision historique, il tourne toute l'histoire d'Esther et de Mardoché à l'intérieur de ces ruines, et ces ruines ont une double dimension, c'est les ruines d'un temps très ancien, qui résonnent dans la parole biblique que tu as choisie et qui accompagne, parce que je t'ai demandé le scénario, et tu m'as répondu non, il n'y a pas de scénario, c'est le texte d'Esther.
Non, il y a un scénario parce que le texte d'Esther, il faut diviser au chapitrage. Mais le texte, les dialogues, ils sont strictement bibliques.
Voilà. Donc c'est cette force de l'écriture prononcée qui va de pair avec le cadre. Et dans ce cadre, comme tu le dis très bien, il y a ces espaces statiques, vous le verrez dans un instant, avec le banquet assyrien, pour l'Antiquité, c'est le roi des banquets. Le roi assyrien, il a tous les pouvoirs et il peut organiser des fêtes qui durent des semaines et des semaines. Et toi, tu le fais défiler, le banquet, on voit le roi, on voit ce qui va arriver quand il va choisir Esther. Et en même temps, si vous regardez, justement c'est la question du cadre, vous regarderez à droite, à gauche, en haut, en bas, partout des ruines. Donc le roi est la puissance totale, mais derrière le roi, il y a l'histoire, il y a les conditions sociales qui font que tous les royaumes ont des comptes à rendre, on le verra, et que donc tu installes les scènes dans des ruines très diverses, dans des plans, avec Saint-Jean d'Acre aussi, la fortification.
Ça, il faut que j'explique, c'est-à-dire tout l'intérieur de la ville. Alors, elle est tournée à Haïfa, à Wadi Salib, et l'extérieur, le mur extérieur, ils sont dans les Saint-Jean d'Acre, une ville sur les côtes, un peu plus au nord de Haïfa, qui était la ville qui a arrêté Napoléon, comme Napoléon arrivait d'Égypte nord, des défendeurs de Saint-Jean d'Acre. Alors, comme souvent en Israël, il y a toujours des résonances historiques. Le choix, c'est ou de faire une chose très explicite, ou de donner des séries de clés. C'est-à-dire, chaque œuvre, il doit avoir ses propres non-dits, qui sont une sorte de proposition. On peut voir simplement un film ou un spectacle, mais on peut, si on reste, continuer à faire le travail qui est une proposition que souvent je fais dans tout le travail que je fais. C'est-à-dire qu'il y a un aspect visible, un visionnage simple. Après, il y a des propositions à retravailler et réinterpréter qu'est-ce que c'est Wadi Salib, qu'est-ce que c'est l'histoire, qu'est-ce que c'est l'architecture. Je crois qu'on va passer au premier extrait. Alors, c'est la scène d'ouverture et vous voyez après aussi le rapport au son, parce que je parle souvent de son, c'est-à-dire les bruits de la ville. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs couches. Il y a l'image, les séries de tableaux vivants, on peut dire. Après, il y a des musiques ou des choses qui sont ajoutées au film. Il y a des bruits de la ville. Il y a les décors. C'est tous des séries d'interprétations au discours, aux narrations.
ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 27 ומאה מדינה. בימים ההם, כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, בשנת 3 למולכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי, הפרטומים ושרי המדינות לפניו. בהראותו את עושר כבוד מולכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים, 80 ומעט יום.
Alors, il y a cette série de tableaux, de textes bibliques. Il y a le caste, d'ailleurs, présentation de caste. Alors le caste, si c'est un autre couche, Mordechai, le sauveur du peuple juif, est joué par le plus grand acteur palestinien, Mohamed Bakri. Le Haman est joué par Julian Omer, un autre acteur qui était à Kippour, qui était assassiné à Jenin. C'est-à-dire qu'il y a des significations. Chaque acte, le décor que vous avez vu, le bruit de la ville, les narrations, l'histoire des décors lui-même, c'est-à-dire c'est une sorte de juxtaposition, des signaux qui vont réunir dans un film. Et chaque couche, c'est un geste d'interprétation, pas d'illustration. Et après, les textes bibliques, c'est des séries d'épisodes qui nous ramènent petit par petit jusqu'à ce dernier acte de victoire. Et comme d'habitude, la Bible, il ne censure pas les contradictions. Et par exemple, Vashti, la reine des Perses, comme elle refuse d'aller faire plaisir au roi, dans l'Angleterre d'époque victorienne, il y avait des clubs féministes qui s'appelaient « The Club of Vashti ». C'est-à-dire pour des femmes qui refusent d'être soumises aux ordres des rois, aux ordres d'hommes. Alors, cette mythologie a toujours une résonance sur les contemporains, même avec les clubs de Vashti, les plasmas de Mohamed Bakri comme Mordechai. Il faut mesurer toujours les gestes, et d'une façon très précise, des gestes qui sont une sorte de commentaire sur le texte de base. Et le film est toujours une sorte d'orchestre, d'ensemble de cette série de signaux.
Oui, la force du travail d'Amos est à la fois de trouver un cadre, et ce cadre est celui de ces ruines, ruines qui sont les ruines de l'instant, du présent, dans la mesure où il reste des traces abandonnées de l'occupation palestinienne, donc, et d'autre part les ruines que vous apercevez à travers les modénatures, à travers le travail de la pierre, et qui installent toute cette affaire dans une dimension transhistorique. Et là, on a cette figure du palais royal, qui est un palais migrant. Et le palais royal, c'est le palais de Xerxès, d'Assuérus, mais c'est aussi un palais assyrien, dans la double dimension. Les Perses se veulent les héritiers d'une certaine tradition. Donc la fête, le déploiement de la musique, avec toujours le contre-temps ou le contre-ton, quand on entend les klaxons de voiture. Tu l'as fait expressément. Mais ce qui, moi, m'a fasciné dans ta construction, c'est que tous les actes publics de cette histoire, qui est dans le fond une histoire des pouvoirs, hein, le pouvoir sans borne du roi perse va se trouver conduit à éliminer la communauté juive. La communauté juive va renverser, à travers la séduction d'Esther, ce pouvoir. Et comme tu le montres très bien à la fin, surtout dans l'épisode de la pendaison, ce renversement, il va avoir pour conséquence que les Juifs vont prendre auprès de Xerxès.
Mais il faut pas raconter la fin.
Ouais, faut pas raconter la fin. Le même rôle. Mais dans cette dialectique de la mécanique du pouvoir, il y a pour moi très fortement, c'est qu'à chaque étape, tu nous dis, on est la fable. Tu dis le mythe, la fable du passé le plus éloigné. Elle renvoie à des situations concrètes et contemporaines. Et les plans que tu fais, des escaliers en particulier, ils sont comme une métaphore du passage du temps et de la façon dont les architectures travaillent. Parce que la ruine, elle est au cœur de ta mise en scène, et la ruine, c'est à la fois l'oubli, bien sûr, mais la mémoire, un équilibre instable entre la nature et la culture, parce que la ruine, elle revient à la nature, mais elle a été faite par des hommes. Et c'est aussi, et elle est là, la troisième dimension que je trouve extraordinaire, c'est le rapport entre le matériel et l'immatériel. Le matériel que tu nous présentes, c'est la fable. Et tu joues des costumes, par exemple. Évidemment, jamais un Assyrien ou un Perse de l'Antiquité n'aurait été vêtu comme ces Arabes, entre guillemets, de pacotille que nous connaissons. Et là, tu fais, à mon avis, une citation consciente de la peinture de la Renaissance, où les turbans, les voiles sont si importants. Et il y a tout un tas d'épisodes dans le film où le dévoilement, ou le fait de se protéger en reprenant le voile, joue un rôle très important pour les hommes comme pour les femmes. Donc c'est cette espèce de dialogue qui est constant entre la fable colorée du passé et, je dirais, les tensions violentes du présent que l'on voit apparaître à toutes sortes de moments dans ton film, qui donne cette structure, je dirais, de commentaire. Parce qu'il y a bien sûr cette antiquité rêvée que tu nous donnes à voir, mais il y a l'antiquité réelle des paroles bibliques dans la force de leur présentation. Et donc, c'est autour de cela que se noue l'originalité de ce film et des renversements qui vont...
Et tout à l'heure, on va vous montrer aussi quelques miniatures persanes qui sont servies comme référence. Et d'ailleurs, dans l'époque, je me souviens que je demandais des grands connaisseurs de miniatures persans d'interpréter les couleurs, comme tu as parlé des couleurs. C'est-à-dire que les couleurs sont des codes de classe. C'est-à-dire qu'il y a le rouge, le bleu, etc. qu'on a essayé de représenter dans les choix pour faire le costume avec Antu. Antu était un immigrant à Paris. Il était resté un peu plus long que son visa de séjour à Paris. Et je me souviens que j'étais allé physiquement à l'aéroport de Charles de Gaulle parce que la police, elle ne veut pas lui faire partie pour Israël. Et c'est-à-dire qu'il y a toujours l'aspect des migrants contemporains parisiens qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire la fabrication du film, les choses qui m'intéressent, c'est bon, la fable, la construction artistique et les dimensions humaines de tous ces gens qui contribuaient à l'existence du travail. Alors, je me souviens que on a fait toute une série de papiers, de policiers, parce qu'il y a une procédure, et je crois que ça existe toujours, bon, qu'il a hanté à Paris, mais le visa a expiré, il ne faut pas lui faire partie non plus. Et cette référence de ça existe dans une séquence que Bernardo Bertolucci, qui vient de décéder, il a joué dans le film Le Golem. Je ne suis pas sûr qu'on a le temps de montrer l'extrait de Bertolucci. Mais c'est-à-dire qu'il y a un aspect concret, humain, dans les fabrications aussi de films. Maintenant, on va passer à un autre extrait, mais je vais vous parler des minutes. C'est une petite séquence dans laquelle l'émissaire du roi Achashverosh cherche de futures reines, c'est-à-dire Esther, et il arrive dans un jardin. Alors, ce jardin-là, j'ai décidé de le tourner aussi à Haïfa, dans un site qui était restauré par un de mes profs, comme j'ai fait l'étude d'architecture, qui était un artiste, Yitzhak Danziger, qui est un artiste très important dans l'histoire contemporaine israélienne, parce que dans l'année 30-40, il y avait des artistes et des poètes qui s'appelaient les Canaanites.
Canaanites.
C'est-à-dire, c'est des artistes qui désiraient de faire rupture avec l'histoire juive, qu'il a dit que les références culturelles, artistiques d'Israël doivent se trouver ses racines aux tribus pré-judaïques qui existaient dans la terre même. Et d'ailleurs, si vous visitez le musée d'Israël à Jérusalem, que je vous conseille, c'est un très bon musée avec un bon département d'archéologie aussi, et aussi un département sur le début de l'alphabet hébraïque, qui est un des plus anciens, avec les Phéniciens, le plus ancien alphabet. L'Égyptien, les hiéroglyphes et les Akkadiens, ils sont plus anciens que l'alphabet hébraïque. Mais l'alphabet hébraïque fait des abstractions. Il n'est pas pictoral, ce n'est pas d'alphabet pictoral, mais il y a des abstractions de 24, 25 signes. Et dans ce musée, il y a cette référence. Mais pour revenir au Canaanite, alors, dans le musée d'Israël, il y a les statues de Nimrod, Hunter, chasseur.
Oui, chasseur.
C'est-à-dire, c'était toute une époque très fascinante de la culture israélienne pré-étatique, avant la création de l'État d'Israël, qui cherchait des racines qui arrivent de la terre même, de l'existence, des réflexions pictorale et poétique de la terre même. Alors on va voir ce jardin qui, Yitzhak Danziger, qui a restauré ce jardin, essaye de restaurer un système d'irrigation palestinien. Ça, c'est le décor. On va voir les premières racontes avec les futures reines Esther. Et on va voir une autre chose que tout à l'heure, on va regarder dans les miniatures persans, comment le narrateur, qui est joué par Shmuel Wolf, arrive chaque fois d'une façon un peu inattendue dans le cadre du film. C'est plutôt un film aussi sur l'exercice des cadres, comment on traite le cadre du film.
איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמי בן קיש איש ימיני אשר הוגלה מירושלים ממחניה מלך יהודה על ידי נבוכדנצר מלך בבל והיא עומדת אסתר בת דודו כי אין לה אב ואם והנערה יפת תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לא לבת.
מוחמד בקרי, כשס לשב, והקהי למיסר דרווה, הוא פרל ערב, אלור אליה עושי לקריסטיון דה לנג, אלן קומטו פרלי למיזיק, למאז'וריטי דה מיזיק דה סלפים, זה המיזיק ארמניה.
Oui, il y a un sous-texte, il y en a plusieurs, et évidemment Amos utilise la métaphore archéologique, passe dans ce film-là seulement, les différentes strates. Mais dans cette histoire, il y a effectivement une mise en scène de la diaspora, et dans la mise en scène de la diaspora, le fait que les gens sont dans une situation, non pas de migrants, mais d'exilés. Le migrant, c'est... on bouge dans l'espace, mais l'exilé, c'est en quelque sorte la réflexion dans les consciences individuelles de l'éloignement. Et ça, c'est apparent de façon, je dirais, mêlée, puisque brusquement, à travers l'élection d'Esther, c'est cette minorité, on renvoie aux déportations babyloniennes, les Juifs qui sont présents dans le royaume perse et qui, jusqu'à présent, n'étaient pas maltraités. Mais ce qui m'a semblé extraordinaire, on le retrouve ici et on le retrouve aussi dans le Golem, c'est le lien que Amos établit entre la condition de l'exil et la représentation de l'exil. Et ça m'a rappelé un texte qui se trouve dans une collection de voyages arabes du Xe siècle qui s'appelle « Le livre des voyageurs ». Et dans « Le livre des voyageurs », il y a ce petit poème qui est signé par le sultan Al-Mamoun, le grand Al-Mamoun de Bagdad. « Ô étrangers, que Dieu vous accorde un retour sûr et que vous retrouviez bien vite ceux qui vous sont chers. Mon cœur est plein de pitié et d'inquiétude pour vous. Que Dieu, en vous protégeant, allège ma peine. J'ai écrit ceci pour vous aider. Quand vous le lirez, sachez que c'est moi qui l'ai écrit, le sultan. » Dans cette revendication, c'est le contraire de ce que nous voyons que tu tires directement du texte biblique, du sultan dans sa position hiératique, qui n'est que l'objet, d'influences contradictoires, celle d'Esther, celle d'Aman et d'autres personnages. Et brusquement, cette figure, elle va s'animer, mais c'est une histoire qu'on verra avec le golem. Je voudrais insister sur le jeu des couleurs, l'opposition entre les pierres blanches, qui sont le cadre du passé, et les corps animés, colorés, vêtus de ces voiles que tu as trouvés en provenance d'une esthétique indienne.
Et en plus, pour être honnête, dans cette époque-là, le travail avec des comédiens, ce n'est pas mon chose principale. C'est-à-dire, je considère que je vais placer des textes dans un paysage, dans un décor, Et dans quelque façon, le comédien, il fait ce travail de représentation des textes dans les paysages. Je deviens sensible au travail de comédien qui actuellement m'intéresse beaucoup. Seulement après mon retour en Israël, comme rabbin élu au début des années 90, et que j'ai fait mon premier film de fiction de cette époque qui s'appelle Devarim, qui est une adaptation de textes modernes d'un écrivain israélien. Il y a deux rôles principaux, un joué par Asi Dayan, acteur très doué, et aussi le fils du général Dayan. Et pour l'autre rôle, je ne trouve personne, parce que je veux quelqu'un qui joue d'une façon pas trop de gestes théâtrales, d'une façon très minimaliste. Je fais un casting très long et je ne trouve personne. Alors finalement, j'ai décidé de jouer moi-même. Je trouve que Asi est supérieur que moi dans ce film, Devarim, que je vous conseille quand même, parce que le texte est très beau. Et là, comme je joue pour la première fois, je comprends les paramètres d'actrices et d'acteurs, et je commence à être intéressé par des dialogues plus sérieux avec les comédiens. Et comme c'est le jour de la femme à Israël, alors il y a Ella Bekassis, Simona Benyamini, Nathalie Portman, Juliette Binoche, Jeanne Moreau, une longue liste d'actrices et d'acteurs. Effectivement, les deux films que j'ai faits, qui ne sont pas des rôles féminins principaux, c'est Kippour, qui est mon histoire, et le film qu'on va parler la semaine prochaine sur l'assassinat des rabbins, qui sont consacrés aux mecs. Dans ce film-là, c'est plutôt des acteurs et l'actrice qui véhiculent un texte, que je vais même garder l'aspect non-polished, de façon qu'il exprime le texte, qu'il garde des traces que les... Un acteur arabe parle avec un accent lourd. Le roi Ahasveros, c'est un acteur d'origine arménien lui-même, etc. Alors, il y a toute cette musique aussi de la langue qui existe. On va voir un autre extrait.
Le Collège de France et France Culture vous présente Amos Gitaï et Alain Schnapp, aujourd'hui Mythologie et mémoire collective.
On voit cette présence de la ruine qui est en amont et en aval de chaque acte. Mais à l'intérieur du gynécée, comme vous l'avez vu, on est dans le bassin, dans les eaux qui courent, dans tout le rituel oriental qui, lui, ne fait plus allusion aux ruines. Il y a comme une coupure. Et dans les scènes décisives, celles où la reine va en quelque sorte enflammer le roi, on verra aussi que tu fais bouger la caméra d'une façon très différente. Et donc, quand tu nous présentes la tente devant la porte avec les pierres, qui est la porte du palais, enfin, qui va monter vers le harem, Mardochée se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et tu fais répéter trois fois. Et les choses doivent être, sont faites comme elles doivent l'être. C'est en quelque sorte la force du pouvoir et la force du politique qui vient s'encadrer dans les pierres. Quand tu dis l'encadrement, la prise de vue, tu pointes chaque fois à cette porte avec ses bossages. Et là, je crois que comme dans les escaliers, ou comme dans le jardin magnifique, le jardin, c'est un peu le jardin d'Éden tel qu'on le rêve dans la fable orientale, on le verra jusqu'à la peinture persane ou à la peinture occidentale de l'époque, il y a une continuité avec tous ces thèmes. Tu agences le discours du politique, qui parfois trouve son écho dans les sons, comme dans cette musique arménienne par exemple, avec celui de l'infrastructure textuelle de ton travail.
Alors, bon, l'histoire d'Esther, comme j'ai indiqué, c'est-à-dire les Juifs, ils sont persécutés, et Haman, il veut détruire tous les Juifs, etc. Et Esther, avec son oncle, arrive de changer le destin des Juifs. Et il y a la victoire juive. Et c'est Haman qui va être pendu, et pas les Juifs. Et il y a la victoire des Juifs. Et d'ailleurs, c'est la source des fêtes de Purim, qui marque cette victoire, victoire des diasporas. Aussi, il faut dire que le texte d'Esther, c'est le seul texte de l'Ancien Testament qui passe tous à la diaspora. Parce que tous les autres textes, ils sont toujours en rapport avec la Terre Sainte, avec Israël, avec etc. Mais Esther de A à Z, il est un texte de diaspora. Et d'ailleurs, c'est le seul texte biblique que Dieu, il n'est pas mentionné. Il n'y a pas une présence divine dans le texte. Il est dans la diaspora, il est dans les Perses. Et une raison de plus pour moi d'adapter ce texte, alors, pas de présence de Dieu, diaspora, c'est époque. Si on passe dans le sens biographique, après les trois documentaires House, Wadi, Journal des Campins, je suis à Paris et je cherche des textes que je peux parler d'Israël. Et d'ailleurs, pour le tournage, j'étais allé en Israël. Et après la guerre des Liban, 1982, j'ai allé pour tourner le film et je reviens à Paris. Et d'ailleurs, j'ai fait aussi le Golem. C'est-à-dire, j'ai fait référence aux vieilles stratégies juives, que le texte, c'est l'élément réuni d'identité. Ce n'est pas tellement le territoire, c'est le texte qui était très présent pendant de très longues périodes d'exil, de diaspora. Alors, Esther, c'est aussi un choix volontaire de ce texte. Le texte d'Esther, qu'on ne va pas voir aujourd'hui toute la fin, mais le texte d'Esther raconte qu'après qu'il y avait les victoires juives sur leur ennemi qui veut leur destruction définitive, Mordechai, il est élu comme conseiller des rois, et le roi, il a dit, mais qu'est-ce que vous voulez maintenant qu'on a éliminé votre ennemi? Il a dit, je vais tuer tous mes ennemis. C'est-à-dire qu'on a dans le cycle de vengeance. D'ailleurs, une autre référence des situations d'aujourd'hui, que les gens très persécutés, que l'histoire, pendant un très long siècle de persécution des Juifs, devient victorieux. Mais il y a la question qui pose, qui est une question éthique, comment on gère le pouvoir, comment on abuse pas le pouvoir. Et comme l'habitude, les rédacteur en chef de Bible, il n'élimine pas cette question. C'est ça la grandeur de ce texte biblique. Alors je me souviens que comme j'étais allé avec Rivka pour les premières de films à Tel Aviv, il y avait une seule projection au musée de Tel Aviv, j'ai fait un acte sage, j'ai mis dans ma poche la Bible. Parce que dans la mémoire collective, on ne se souvient pas de cette phase de vengeance des Juifs. C'était éliminé, on se souvient de la fête des Juifs qui sont survécu leur persécution. Et les gens m'ont accusé que moi j'ai ajouté cette fin. Mais non. Si vous ouvrez le texte d'Esther qui est dans la Bible, il y a cette vengeance très cruelle, sans pitié. Et le rédacteur en chef d'époque, il avait la sagesse de ne pas éliminer cette question éthique. Mais c'était éliminé de mémoire collective. Alors, heureusement, j'avais dans ma poche la Bible, je dis voilà, je suis plus fidèle que vous, finalement. Alors, le film d'Esther finit par un plan assez long qui va devenir une sorte de signature de pas mal de mes films, et comme elle est toujours longue, on n'a jamais eu le temps de montrer. C'était aussi le plan final de Berlin-Jérusalem, c'est aussi de Eden, un film que j'ai fait avec Arthur Miller, dans lequel Arthur Miller il a joué aussi, c'est le plan finale d'Eden, même Rosa Crédy, qu'on n'a pas eu le temps de montrer, etc., etc. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer le plan final dans lequel tous les comédiens racontent leur histoire avec la résonance des choses que je viens vous raconter sur la fin de l'histoire historique d'Esther.
שחקן ומקצועי, נולדתי בהונגריה ב-1934 בבודפסט. אמי מתה כשהייתי בגיל 7, נשארתי עם אבא, הוא כעבור שנה, שנה וחצי התחתן, הייתה לי אם חורגת, הגרמנים כבשו את הונגריה ב-44, וכעבור חצי שנה הרגו את אבא שלי. הרגו את אבא שלי באחד הפוגרומים בבודפסט. לא הספיקו לקחת אותנו למחנות ריכוז. וב-48 עליתי לישראל, ב-49 ינואר הגעתי לארץ. זה תמיד הצטייר נגד עיניי הארץ, משהו מאוד יפה לפי התמונות וכמו שמתארים, כמו שכתוב, ארץ זבת חלב ודבש, משהו אידילי.
Finalement, on a vu un de cette dernière plan qui fait une sorte de résumé des choses qu'on a parlé, les iconographies, les biographies des comédiens, des corps, les ruines de ce quartier palestinien de Haïfa.
Donc, je voudrais juste faire un petit commentaire sur le passage à la fin. Vous voyez les plans qui reviennent, et chaque fois, les ruines, et puis les herbes. Ce qui a été abandonné par les hommes revient à la nature. Leur présence à l'intérieur du paysage, elle donne une idée de l'abandon et de la fragilité. Quand tu nous fais voir la ville ancienne face à la ville moderne, tu réassures, enfin, tu réinstalles ce chiasme. Mais surtout, ce qui me paraît important, c'est que dans les biographies des acteurs, accompagnées par cette musique, tu reprends le thème général du film, qui était celui des pouvoirs, des renversements des pouvoirs et des abus de pouvoir. Et dans la vie séparée de chacune des personnes que tu nous montres, il y a ça. Tout ça sur ce fond de ruines qui est en quelque sorte le lieu du départ, parce que quand on pense le passé, l'arché, le début, c'est la ruine, mais qui peut être aussi le lieu du futur. Et pour les Babyloniens, hein, en babylonien, le passé est devant nous et le futur est derrière nous. Et j'ai l'impression que tu as retrouvé cette métaphore.
Comme je veux qu'on monte un des tableaux que tu as choisi, alors on passe par laquelle
là, on peut, le Poussin peut-être.
Poussin, oui. Ok.
Voilà, c'est la peste d'Ashdod, de Poussin, dans cette ville pétrifiée, qui est une ville à la fois antique et moderne, avec ses palais, dont certains pourraient être des palais romains, mais d'autres pourraient être des palais contemporains de Poussin, qui était un homme de, enfin, un romain, plus romain que tous les romains. Vous voyez la violence de l'infection qui touche les femmes, les enfants, les corps. Vous voyez cette femme en train de mourir sur un tronc de colonne. Puis sur votre gauche, vous avez cette colonnade. La seule ruine physique, c'est cette abaque de chapiteau. Et sur l'abaque du chapiteau, il y a le sang. Et au-dessus, vous avez une main humaine. Mais autrement, il n'y a pas de ruine. Parce que la ruine, elle est dite par ce sang sur l'abaque. Et regardez là, juste sous le relief romain, eh bien, vous avez l'abomination, vous avez un rat. Et cela vous dit que l'humanité ne survivra pas.
Et pourquoi tu as choisi de ce tableau vis-à-vis des choses qu'on a parlé ?
Je choisis ce tableau parce qu'il met particulièrement en scène le détail de la ruine. Chez Poussin, la ruine est intacte. Ce qui la suggère, c'est ce petit bout d'abat qu'est le rat. Et chez toi, la ruine est constamment présente dans ce décor palestinien, mais elle est rehaussée par la force de l'écriture. Donc, le jeu que tu donnes à la parole biblique correspond pour moi à ce que fait, à ce que construit Poussin avec ses architectures non touchées par les ruines. Ça, c'était prévu pour illustrer une autre quelque chose du golem, c'est-à-dire le corps du Christ comme exposition de ce qui va arriver aux étrangers qui vont être tués et dans l'espèce de culte qui va être rendu par sa femme, Haïli Meller.
Bon, le golem, c'est une trilogie, alors on ne va pas avoir dans les quelques minutes qui nous restent. Alors c'est encore cette époque des années 80, et je suis parisien, je cherche des thématiques qui vont parler des choses autour de moi. J'ai fait 3 films sur le golem. Le premier s'appelle « Naissance d'un golem », dans lequel je vais aller voir... Les scénaristes Fellini et Antonioni qui habitent à côté de Bologne pour qu'il me raconte qu'est-ce que pour lui évoque l'histoire de Golem. Et il me raconte l'histoire qui est filmée dans ce film sur la naissance d'un Golem. comme vous savez, sa mythologie qui commence déjà au IIIe siècle, et qui après a inspiré beaucoup d'expressionnistes allemands. Il y a le grand film Das Golem par Wegener, qui parle de création d'êtres humains artificiels. C'est toutes les questions de rapport entre l'être humain et la technologie. À partir du IIIe siècle, c'est un sujet qui inspire les penseurs, et après c'est plus très présent au XVIe, XVIIe dans les textes kabbalistiques. Et le golem de Sepharad, il est femme, c'est-à-dire cet être humain créé par des compositions de lettres et de magie pour sauver les communautés. C'est une question extrêmement intéressante, c'est-à-dire que et aussi on connaît le texte de Mehring, le golem de Prague, et ça a influencé Frankenstein, tous les science-fiction, etc. Alors je ne vais pas vous fatiguer avec toutes les références, mais c'est une mythologie. Comme on vit dans un monde dans lequel la technologie, heureusement ou malheureusement, est très dominante, c'est une question qui intéresse beaucoup. C'est-à-dire, pour faire un synopsis très simple, c'est-à-dire dans la version de Prague, le grand rabbin, le Maharal, crée par une combinaison de la terre un être humain, et chaque jour, il a mis un bout de papier dans les bouches de cette création, comme on peut dire comme une carte magnétique aujourd'hui, dans laquelle c'est écrit le mot « Emet ». « Emet » signifie en hébreu « la vérité ». Et comme il a mis ce mot dans les bouches de cette création, qui était créée à côté de la rivière avec la boue, cette créature a commencé à faire les travaux, il a cherché de l'eau, nourri les communautés, etc. Et chaque vendredi, le rabbin il était allé, sorti le bout de papier, et le golem a reposé pour le Shabbat. Mais un vendredi, le rabbin il a oublié de sortir le bout de papier de la bouche des golems, et les golems commençaient à brûler toutes les communautés, etc. C'est-à-dire, entre parenthèses, rapport, si on, l'être humain ne contrôle pas la technologie va détruire l'humanité. Et d'ailleurs, le deuxième chapitre de trilogie des golems, je vais très vite, s'appelle « Jardin pétrifié », Petrified Garden, que j'ai tourné à la Russie. Parce que la Russie, c'est aussi un pays qui était l'Union soviétique construit par une idée d'aider l'humanité, etc. Et à un moment donné, elle est écroulée sur le créateur. Mais on peut faire ça sur d'autres pays aussi. Projet de futur. Alors, bref, alors le rabbin, finalement, il arrive au golem, il sort le bout de papier. Le mot était Emet, vérité. Mais il arrive sorti seulement les « et ». Il reste « met ». Et « met » en hébreu, c'est « mort ».« Emet », vérité, « met », mort. C'est-à-dire des résonances dans les langues hébraïques, sonores, comme dans les livres de Genèse, les livres de la création, « shamaim »,« maim », tout cet aspect sonore intégré au texte d'origine. Bref. Alors, j'ai décidé de faire un challenge assez énorme de trilogie sur le golem. D'ailleurs, j'ai décidé d'abord de faire un son film et ça a grandi. Le film était tourné en 91 et en 93, et après l'élection des rabbins, on a rentré vive à Israël et commence l'autre époque, Kadosh, Kippour, tout ce film-là. Alors, je peux vous montrer un petit bout de début et après... C'est encore l'époque que j'ai fait mes études, mes propres études à moi. J'avais Henri Alkan, j'avais tous ces grands comédiens, les Esther. J'ai fait déjà Berlin-Jérusalem. Et là, je demandais Alkan, c'est le dernier film qu'Alkan a tourné, après il était trop fatigué. Et je demandais Pina Bausch de travailler à nouveau sur une séquence. Et Samuel Fuller de jouer dans le film, Bernardo Bertolucci de jouer dans le film, Marceline Loridan, Philippe Garel, les gens que j'ai appréciés, Anna Chigula, Mireille Perrier, Fabien Babs. J'avais un magnifique brochette de professeurs à moi, comédiens, et comme ça j'ai commencé à apprendre mon métier.
Les Philistins se tenaient sur la montagne d'un côté. Les Israélites se tenaient sur la montagne de l'autre côté. La vallée était entre eux. Un champion sorti du camp philistin. Il s'appelait Goliath. Il était de Gath. Sa taille était de 6 coudées et 1 empan. Il était coiffé d'un casque de bronze et revêtu d'une cuirasse à écailles. Le poids de la cuirasse était de 5000 sicles de bronze et un javelot de bronze en bandoulière. Le bois de sa lance était comme l'ensoupe des tisserands. Et la pointe de sa lance pesait 600 sicles de fer. Le porte-bouclier marchait devant lui. David dit à Saoul, « Ton serviteur était berger chez mon père. Quand il venait un lion et même un ours pour enlever une brebis du troupeau, je partais à sa poursuite. Je le frappais et je la lui arrachais de la gueule. Quand il m'attaquait, je le saisissais par les poils. Je le frappais à mort. Ton serviteur a frappé et le lion et l'ours. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi ?» armé d'un bâton. Le Philistin maudit David par ses dieux. Le Philistin dit à David, « Viens ici, que je donne ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Toi, tu viens à moi, armé d'une épée, d'une lance, et d'un javelot. Moi, je viens à toi, armé de mes convictions. »
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le cinéaste Amos Gitaille et l'historien archéologue Alain Schnapp, Mythologie et mémoire collective, dans le cadre de la série de cours d'Amos Gitaille, Traverser les frontières. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion. La leçon inaugurale d'Amos Gitaille a été publiée chez Fayard sous le titre « La caméra est une sorte de fétiche » filmée au Moyen-Orient. Je rappelle également l'ouvrage d'Alain Schnapp, « Ruines, essais de perspectives comparées » en 2015. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Coordination et présentation Meryl Meneghetti. Lundi, nous traverserons encore les frontières en compagnie d'Amos Gitaille. Il nous dira comment ses films l'ont politisé. Dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.